Eh bien, bonjour Nicolas, c'est à vous pour cette émission.
Ma chère Virginie, Nini Vlam pour les intimes, enfin les intimes de YouTube, vous parlez d'une intimité. Merci à Virginie qui va réaliser cette émission. Que ferions-nous sans nos techniciens, tout comme sans nos bénévoles? Nos bénévoles, eh bien Patrice est présent au standard, donc vous pouvez... le plus simple est d'envoyer un courriel électronique, évidemment, n'hésitez pas, il nous sera transmis à mon invité comme à moi-même et nous tâcherons de répondre au mieux à vos questions. Évitez l'envoi des questions autour de 10h20. Quand il ne reste plus que quelques minutes avant de conclure l'émission. Essayez autant que faire se peut d'envoyer vos questions dans la première heure d'émission, hein, émission qui dure une heure et demie, et comme ça nous aurons eh bien toute latitude et tout loisir de répondre, sachant qu'il n'y aura pas ce matin de revue de presse. On va consacrer l'intégralité de cette émission à l'invité du jour, l'invité du jour qui n'est autre que Gilles Lartigot, qui doit m'entendre là à l'instant et que je salue bien. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas, je te reçois 5 sur 5. Bienvenue dans mon studio, hein, donc j'ai le studio à moi tout seul de Radio Courtoisie. Donc je reçois Nicolas Stoker qui va venir m'interviewer, qui est lui en déplacement. C'était un contretemps de dernière minute.
Ouais, oui. On n'arrête pas le progrès, voilà, donc tu es dans le studio. Et à titre exceptionnel, cette semaine, j'étais en effet en province, j'étais dans ma néo-ruralité. Et néanmoins, grâce à la technique, il est possible de se retrouver à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Tu peux en effet disposer de ce beau et nouveau studio, toi qui es un habitué de Radio Courtoisie, de Ligne Droite, de mes émissions depuis des années et des années. Déjà longtemps, il y a longtemps, c'était le Libre Journal de la plus grande France, puis le Libre Journal de la Résistance française. Nous nous sommes rencontrés et connus à l'époque du combat victorieux pour Sainte-Rita, ouais. Sainte-Rita, l'église de la rue Bonvin, 27 rue François Bonvin, dans le 15e arrondissement de Paris, qui, eh bien, grâce aux efforts des uns et des autres, il y eut aussi celui de Gilles, eh bien, n'a pas été démoli, même si aujourd'hui c'est une salle d'escalade, c'est une autre façon de monter au ciel. Ils ont fait preuve d'un certain humour, ceux qui ont exploité le lieu aujourd'hui, mais si demain nous en avons les moyens, eh bien, nous pourrons restituer à la fois peut-être cette église, sait-on jamais.
C'est bien Nicolas, je te coupe, c'est bien que tu évoques Sainte Rita, c'est bien que tu évoques la sortie de Hit, c'était en 2014, tu fais partie vraiment des tout premiers, je me rappelle quand tu es venu me trouver à la fin donc, de ce show conférence où on avait fait ça le comble hein, dans cette église fabuleuse. Et donc la fidélité est quelque chose de plus en plus rare, donc sache que tu fais partie des fidèles et voilà, donc je t'en suis très reconnaissant, en tout cas. Voilà.
Exactement, il y a une fidélité à l'auteur de Hit et Hit 2, qui sont deux... alors là, on multiplie, je vais multiplier les anglicismes, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ce sont des livres qui ont eu un grand succès, des best-sellers, comme on dit. Ils ont... Alors que pourtant, on ne peut pas dire que Gilles Lartigot ait bénéficié d'une couverture... d'un prix Nobel de littérature, couverture médiatique, mais par contre il est particulièrement apprécié déjà des médias alternatifs et puis des réseaux sociaux entre autres dans lesquels il se développe et qui permet en plus du bouche à oreille eh bien d'assurer son succès, son franc succès qui ne s'est jamais démenti, que ce soit avec Hit 1, Hit 2, mais vous avez d'autres petits ouvrages tels que Croc Hit hein, qui font partie des livres de Gilles Lartigot, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, comme un chien. Alors ça, c'est avec Valérie. On Bacon. Dit Bacon.
Bacon.
Bacon. Bacon. Voilà, anthropomorphisme moderne du narcissisme au fétichisme. Et Croquit, qui était le petit dernier avant
alors,
que n'arrive
Amérique. Oui. Je te coupe pas, mais je sais que tu aimes bien les digressions. Donc je sais qu'on a le temps, donc je profite. J'ai rencontré votre technicienne, donc Virginie, qui m'a présenté Bianca. Donc Bianca, on peut dire qui est Bianca, donc c'est un magnifique petit chihuahua de 3 mois, c'est ça, Virginie, voilà. Et donc bien sûr, tu me connais, hein, je suis non pas taquin, mais je lui ai demandé ce qu'elle donnait à manger, bien sûr, comme 8 personnes sur 10, des croquettes, voilà.
Aïe,
bientôt elle va arrêter les croquettes, donc il faut absolument qu'elle lise Croquettes. Je sais pas si j'en ai laissé un ici à Radio Courtoisie, mais je lui ferai passer, parce que c'est vraiment, tu vois, une enquête. Toi, tu m'as reçu pour Croquettes.
Ah, tout à fait.
C'est vraiment un secteur industriel avec autant de conflits d'intérêts, que ce soit avec les industriels, les vétérinaires. Tu vois, rien que le fait de rendre l'aliment ultra transformé par excellence, quand même, la croquette. Extrudé, voilà, avec une nourriture sèche, sans humidité, avec des rebuts d'industriels, que ce soit la viande, des céréales, etc., des dégusteurs de goût. Comment les vétérinaires peuvent avoir le toupet, en fait, de rendre ça comme la nourriture de référence? Voilà, ouais. C'est un mystère. D'ailleurs, il faut qu'on trouve des vétérinaires, ou au moins un, tu vois, pour venir alimenter peut-être ce débat. Mais voilà.
C'est pas malheureusement, le sujet du jour, tu sais ce que j'en pense. Ouais, hein, ouais. Les vétérinaires qui picousent aussi pour la dermatose, tout comme leurs proches cousins, les médecins, qui aussi injectent des choses dont ils ne connaissent même pas la composition, puisque c'est un secret commercial.
Je pense
qu'aujourd'hui, on vit une dégradation, malheureusement, de ces sacerdoces qui étaient pourtant le métier de vétérinaire comme de médecin. Ouais. Et heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, des écrivains, des chercheurs comme Gilles Lartigot, qui fait de l'investigation, qui fait du journalisme dans le meilleur sens du terme. Il est dans Hit, déjà, il alertait à sa façon contre certaines pratiques dans les abattoirs. Et c'était vraiment un livre, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, qui mettait les choses au point. Gilles Lartigot maintenant fait des livres différents, il fait des livres plus courts, plus condensés, plus coup de poing. C'est une nouvelle façon d'aborder l'écriture, Gilles.
Oui, tout à fait. J'ai voulu rendre le livre sexy. Tu connais mon amour des livres, je sais qu'on le partage, comme de nombreux auditeurs également. Il faut vraiment que ça rentre dans des habitudes quotidiennes, hein. Moi, je dirais lire. C'est comme se brosser les dents, c'est comme manger, c'est comme se laver, c'est comme s'habiller, c'est comme se raser pour les hommes, quoique bon, les barbus ne se rasent pas forcément tous les jours, mais on s'entretient. Mais
la lecture, la
lecture est vraiment, vraiment un impératif. Si tu me le permets, je suis en studio, donc je vais peut-être profiter aussi peut-être de la caméra pour montrer Croquettes, mais surtout l'intérieur du livre.
Aussi.
Tu le montreras.
On le verra tous les deux.
Voilà,
moi,
l'intérieur du
là,
livre.
American Food. Ouais.
Parce que je ne sais pas si tu as également cette habitude, alors est-ce que c'est une bonne ou mauvaise habitude, de stabiloter les livres que tu lis pour le travail, je dirais, pas pour le...
Non, je souligne, je souligne au crayon de papier,
crayon
personnellement.
Papier. Voilà, c'est un peu moins dommageable pour les livres. Moi, j'ai cette habitude depuis que j'ai vraiment lu intensément. J'ai commencé sur le tard, hein, je dirais à peu près à 40 ans, avec les enquêtes pour Hit. Et je me suis rapproché donc de la lecture. Et c'est vrai qu'un livre, lorsque tu l'ouvres, qu'il n'y a que du texte, ça peut être un petit peu dur, je dirais, à rentrer dans le livre, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Et tu sais que j'ai quand même un lectorat assez grand public. Moi, je suis quelqu'un qui vulgarise beaucoup, dans le bon sens du terme, hein, pour transmettre des informations. Et donc, j'ai voulu rendre ces
et
livres
sexy.
Abordables
à tous.
Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, donc petit format, moins de 150 pages. J'ai appelé cette collection Short Reads. Alors, je ne suis pas un anti-américain, je ne suis pas un pro-américain non plus, je suis un patriote français anti-européiste. Hein. Que ce soit clair, ce n'est pas un brûlot anti-américain, American Food, mais j'aime en fait certaines formes d'anglicisme. Voilà. Qu'on m'a reproché au Québec. Hein. Tu sais qu'au Québec, ils ne plaisantent pas avec ça.
Hein. Ah ben bah non, on ne plaisante pas avec la langue française.
Non, j'ai des libraires qui ont refusé de vendre Hit parce que le titre c'était Hit. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas, c'est Mange. Et pourquoi tu l'as pas titré Mange?
Tu mettras ton petit obol au cochonnet. Fais attention, juste derrière toi, derrière ton épaule gauche, tu as d'ailleurs un petit cochon qui veille aussi à ta francophonie. Regarde. Ah, il est là.
La fameuse tirelire.
Voilà, il y a cette fameuse tirelire quand on considère qu'on a abusé un peu en la matière. Mais on ne va pas en faire toutes les missions. Ça m'est déjà reproché en disant « Ah, vous moquez les anglicismes, mais en réalité, ça vous amuse. » Bon, non, ça ne m'amuse pas. On fait comme on peut. Malheureusement, avec, disons-le, c'est une manière de... C'est un livre, c'est aussi un miroir que l'on tend au lecteur, et ce miroir, eh bien, il est dérangeant. Il est dérangeant parce que justement, il y a cette invasion dont le livre d'ailleurs dit une invasion qui a commencé par une libération. On va y revenir, bien sûr, hein, mais c'est une invasion, et cette invasion, elle, c'est une invasion culturelle, et c'est une invasion qui commence par les mots. Si aujourd'hui il y a tant de mots en anglais, eh bien, c'est parce que justement, on s'est fait coloniser. Et puis il y a, et on le verra à un moment donné aussi dans le livre, la partie Hollywood, qui est un vecteur considérable de l'American food. Et c'est pareil, Hollywood, c'est l'anglais. Donc il ne faut pas s'étonner de retrouver beaucoup d'anglicisme dans ce livre.
Alors beaucoup... Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Déjà, il y a le titre, évidemment. Bah, oui. Mais bon, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Les gens qui me connaissent, je dirais, là, on m'a reproché, par exemple,
c'est vrai,
sur
X,
ce livre-là.
1 et 2, ouais.
Okay, moi, je suis un utilisateur de. Pour moi, ce sont des logiciels. C'est pas de l'intelligence artificielle. J'utilise des logiciels, en fait, des applications qu'on appelle intelligence artificielle. Mais bon, pour faire cette couverture, il faut savoir prompter. Il faut savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai un passé de directeur artistique. J'ai dirigé des agences de communication. J'aime l'image, et je trouve qu'aujourd'hui, utiliser à bon escient, ça nous apporte énormément de choses. Je sais que sur GPTV, on peut vous le reprocher également. Je trouve, j'avais fait un petit peu, tu connais mon côté taquin, un peu provocateur. Moi qui ai connu les années 80, j'ai importé quasiment, j'étais parmi les premiers à utiliser le Macintosh en France. J'ai formé des imprimeurs à la PAO, publication assistée par ordinateur, avec des logiciels comme Express, Word, Photoshop, etc. Pour moi, celui qui refuse l'IA aujourd'hui, peut-être ça va choquer certains d'entre vous, mais c'est ceux qui refusaient l'informatique dans les années 80. Donc, il ne faut pas, je dirais, se mettre s'arc-bouter et refuser totalement ces nouveaux outils qui, pour moi, lorsqu'on a des compétences que j'ai à 60 ans, ça permet d'upgrader ces compétences. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot derrière ou des choses qui ne sont pas saines, bien entendu. Mais refuser ce genre d'outils, je trouve ça assez dommage, surtout pour des questions idéologiques.
Bon, déjà, il faut prendre la main sur ce genre d'outils, parce que c'est pas si simple que ça, d'emploi. Il faut avoir un minimum d'attrait, d'intérêt pour, en effet, et l'informatique, et puis le numérique, et ce qui suit, qui est en effet aujourd'hui son aboutissement, si j'ose dire, avec l'intelligence artificielle. Oui, alors, je vais lire, si tu veux bien, un petit peu le quatrième de couverture pour planter le décor et l'introduction de la lecture de ce livre, ce qui va nous permettre de commencer à développer cette émission autour de ce livre sur American Food. Depuis plus de 10 ans, voilà, sur le quatrième de couverture, on rappelle que Gilles Lartigot décrypte les dérives de notre époque, les logiques industrielles et les mécanismes d'influence qui façonne notre quotidien. Donc, dans ces mécanismes d'influence, eh bien, il y a ce qui est le titre du quatrième de couverture, le plus grand soft power de l'histoire. Et dans American Food, il retrace l'histoire d'une invasion silencieuse, commencée après la Seconde Guerre mondiale, une conquête culturelle qui n'a pas eu besoin d'armes pour transformer nos habitudes alimentaires, nos rapports au temps et jusqu'à notre santé. Chewing-gum, DGI, Coca-Cola, McDonald's, Kellogg, fast-food, publicité, agriculture intensive, nourriture ultra transformée. Derrière le rêve américain se dessine peu à peu un autre visage, celui d'un mode de vie devenu mondial. Tout est dit, hein. Un mode de vie devenu mondial.
Voilà. Ouais, c'est un peu l'objet des post-fasts, c'est de un petit peu brosser le livre en quelques mots. Tu sais, en fait, c'est l'accroche est importante. Hein, une invasion qui a commencé par une libération, parce que je parle en fait des GIs qui débarquent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, avec dans leur bouche une espèce de gomme à mâcher qui était très nouveau pour nous. Hein. Bon, on fait partie de la même génération, Nicolas n'a pas connu ça. Mais en fait, ça n'existait pas. C'est quand même assez fou d'adopter comme ça, c'est une habitude non pas alimentaire, puisque le chewing-gum n'a aucun intérêt nutritionnel. Voilà. Hormis celui d'occuper la bouche et de donner du style. D'ailleurs, si vous regardez des archives de l'INA, vous verrez certains chanteurs ou certains mêmes animateurs en train de mâchouiller, on fait du chewing-gum pendant les émissions. Hein. Donc,
ouais,
tu sais, c'est à l'époque de Prolac aussi, où on fumait, où on buvait. Comme là, donc,
ah oui,
bah, voilà, mon père trouvait
ça. La belle
ça,
époque.
Ouais. Je ne sais pas si c'est la belle époque, en tout cas, c'est une époque qui est révolue, malheureusement. et donc, ce chewing-gum, pour moi, était un peu le marqueur de cet American food. Alors Coca-Cola était déjà présent, hein, puisque Coca-Cola est arrivé fin des années 20 en France, en Europe, mais c'est vraiment après le débarquement. Et surtout, je voulais vraiment parler du plan Marshall. Alors, je ne suis pas ici en territoire inconnu, parce que je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie savent ce qu'est le plan Marshall, mais bien très sûr. Peu, dans le grand public en tout cas, est au courant de la contrepartie de cette aide américaine, sous forme d'emprunt, hein, plusieurs milliards de dollars, dont la France a bénéficié encore plus que tous les autres pays européens. Il y a eu une contrepartie, c'était d'importer la culture américaine. Alors je parle des séries, je parle des Starsky et Hutch, des Miami Vice, des La Petite Maison dans la Prairie. D'ailleurs, il y a un remix qui est en train d'être fait par Netflix. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que remix netflixiens, d'ailleurs j'en parle.
Oui.
Voilà, donc tout ce qui est patriarcat.
On verra qui jouera Charles Ingalls.
Donc voilà, c'est des souvenirs, tu vois. Et en fait, ces souvenirs, je dis Hollywood, c'est la fabrique du désir. L'Amérique s'est fabriquée sur le cinéma, en fait. Ça a été pour eux une arme de propagande, tout comme à l'époque du Troisième Reich, tout comme à l'époque de la Russie aussi, où il y avait du cinéma de propagande. Mais là, c'était de la propagande fun. Voilà, c'est la propagande qui ne disait pas son nom. Et donc, ça a permis d'avoir des habitudes alimentaires qui étaient complètement inconcevables. Boire un verre de lait, par exemple. Donc, je sais qu'après la guerre, on a donné un verre de lait aux petits Français qui allaient à l'école, etc. Parce que le lait a notamment nourri, a sauvé, hein, donc de la famine également. Bien qu'aujourd'hui, ce soit assez dispensable de boire du lait, notamment du lait de vache. Mais peut-être pas à l'époque. Et tu vois, ce verre de lait, le Coca-Cola, je cite par exemple un film que j'aime beaucoup, qui est Retour vers le futur, avec les fameux dinners américains. Tu vois, les dinners où tu manges avec ces banquettes. Tu sais qui sont
dans les années 50.
C'est ça, les années 50, où on voit les milkshakes, où on voit déjà les hamburgers, où on voit ces adolescents, en fait, qui se dragouillent. Et comme je dis, tous les enfants de mon époque, et je pense que tu en fais partie également, ont rêvé d'être américain quand même.
Non, moi, j'ai pas rêvé d'être américain.
Ok, bon, toi.
Mais bien sûr, j'ai été soumis à cette même... à ce flux culturel de propagande massif. Et oui, j'attendais impatiemment, quand j'étais gamin, d'aller le samedi soir sur les Champs-Élysées me jeter sur un Burger King ou sur un McDo. Non, mais ça, bien sûr.
Tu le reconnais quand même, voilà, il faut reconnaître.
Ah non, mais oui, ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui voulait être américain, mais bien sûr, j'avais ça. Non. Comme les séries américaines dont tu parles très bien, les Magnum, Assurance Tout Risque et autres.
Oui, voilà. En fait, on ne voulait pas devenir américain, mais on rêvait américain, en fait. Voilà.
Oui, c'est pour montrer. Oui. Voilà. L'imaginaire était colonisé, oui, bien sûr.
Oui, on a colonisé par l'imaginaire, comme je dis dans le livre. Oh, oui. Tu vois, un livre qui est... Moi, j'aime beaucoup l'histoire, comme toi, et je pense aussi nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. La première punchline, c'est qui ne connaît pas l'histoire ne peut comprendre le présent. Rien n'est plus vrai, quelque domaine que ce soit, vraiment. Et là, pour moi, c'était un point important. Moi, qui étais un cancre à l'école, tu vois, j'ai appris l'histoire en découvrant Marion Sigaud, tu vois, complètement par hasard.
Comment enfin, ça, c'est pas mal pour apprendre l'histoire. Marion Sigaud, c'est bien.
J'aurais pu mal tomber. Mais ça m'a donné goût, en fait, d'apprendre par moi-même. Et puis de choisir également mes sources. Et puis, c'est une découverte permanente. Même aujourd'hui, à 60 ans, j'ai plaisir chaque fois à m'instruire, à me coucher, peut-être un peu plus intelligent que lorsque je me suis levé le matin. Et l'ambition de mes short reads, d'American Food notamment, c'est celui d'expliquer comment la nourriture américaine est arrivée dans nos assiettes. Et pas du tout par la force, hein. C'est-à-dire que c'est arrivé par la séduction, c'est arrivé par l'acceptation, c'est arrivé également. Alors, on parle beaucoup de McDonald's parce que je parle des trois piliers de l'American Food, parce qu'il fallait choisir, tu vois, avec les multiples marques. Donc, soda, Coca-Cola, hamburger, bien sûr, McDonald's, empire mondial du burger. J'explique d'où vient aussi le fast-food, tu vois. Et j'explique que en France, c'est un Français, en fait, qui a inventé les fast-food.
Exactement, oui. Exactement, c'est Morel, c'est ça?
C'est Jacques Borel. Alors,
Jacques Borel.
Jacques Borel, j'ai discuté avec un de nos camarades qui a notre âge et qui se souvient très bien de Jacques Borel. Il me disait, mais c'est celui qui a inspiré le personnage de Tricatel dans L'aile ou la cuisse.
Oui, dans L'aile ou la cuisse, tout à fait.
Très mal vu à l'époque, mais Jacques Borel est un innovateur incroyable. C'est un gars dans les années 50, il a déjà anticipé que les femmes allaient se mettre sur le marché du travail, que le temps de travail allait diminuer, que les loisirs allaient prendre de plus en plus de place, que ces autoroutes qui se construisaient de plus en plus en France, parce qu'on a un réseau routier quand même assez incroyable, il fallait proposer quelque chose pour manger, parce qu'avant il y avait les restos de routiers, mais ça c'était sur les nationales, mais sur les autoroutes. Et là, c'est un petit peu plus tard, donc il va introduire en fait l'hamburger. Je reprends chronologiquement, donc fin des années 50, même début des années 50, avec la marque Wimpy, qui est une marque anglaise, qui découvre à Chicago, parce qu'ils étaient aussi très présents aux États-Unis, et il ouvre le premier Wimpy à Paris avec le hamburger, un steak haché. Mais ça aussi, totalement nouveau. Tu vois, on peut pas nous. C'est pour ça qu'il faut pas juger l'histoire. Aujourd'hui, on connaît les conséquences. Donc moi, je suis très, très humble par rapport à l'histoire, par rapport à ceux qui ont connu justement cette histoire, que ce soit la collaboration, etc. Bon, bref, on ne juge pas l'histoire. Mais dans les années 50, donc, il va comme ça proposer le self-service. Avant, il avait des restaurants qui faisaient 400 couverts jour. Il passe à 6000, Nicolas.
Et oui.
Il passe à 6000 avec quoi? Avec un plateau. Mais en fait, c'est plus du restaurant, c'est la cantine, tu vois. C'était totalement nouveau. Et le hamburger, je me souviens très bien quand je suis allé manger le premier hamburger, c'était tout début des années 80, près de Marseille, à Aubagne, où j'habitais à l'époque. Mon grand-père me disait, mais tu vas manger avec les mains, mais on n'est pas des sauvages.
Eh oui.
Ça nous fait sourire aujourd'hui, tu vois. Bon, on mangeait quand même le jambon beurre, tu vois, les sandwichs, mais des frites. Frites avec les mains, c'était à l'époque pour nos anciens inconcevable.
Mais oui.
Et Jacques Borel ne s'est pas arrêté là. Il a inventé, donc par rapport aux autoroutes, etc., les restoroutes. Ces fameux ponts, qui s'appellent l'Arche aujourd'hui, tu vois, ces fameux ponts qui traversent les deux voies.
C'est ça.
Et là, il va proposer donc des menus standardisés. Donc déjà, tu vois une vision un petit peu à l'américaine. Il y avait quatre plats à l'époque. Je suis sûr qu'il y en a un que tu connais très bien. Moi, mon père le prenait à chaque fois. Ça me rappelle des souvenirs incroyables, ça, le restaurant.
Ah bah, t'avais le steak frite, t'avais le poulet frite.
Le poulet grillé, steak frite.
Voilà, grillé.
Salade niçoise.
Salade niçoise. Et puis, le fameux jambon cuit au madère, à la sauce madère, c'est ça?
Jambon braisé à la sauce madère. Rien que ça, ça te fait rêver, tu vois. Mon père prenait toujours ça. Et donc, les restaurants, c'était quoi? Ben, tu arrivais, tu mangeais, tu repartais, fissa. C'était plus un repas, c'est une pause technique, tu vois. Et tout ça, en fait, ça s'est mis petit à petit dans nos habitudes. Et comme je l'ai écrit, en fait, le temps moderne se contracte. D'ailleurs, j'ai une amie qui me dit, aujourd'hui, les secondes sont beaucoup plus rapides qu'au siècle dernier. Bon, je ne sais pas d'où vient cette théorie, mais en tout cas, c'est vrai que le temps se contracte, on est de plus en plus dans le speed. D'ailleurs, j'apprécie énormément, tu vois, Radio Courtoisie, parce que vous prenez le temps d'échanger avec vos invités, surtout ceux comme moi qui parlent beaucoup. Et c'est rare, tu vois, ce genre de choses, de faire des pauses, de parler lentement. Comme ça, pour assimiler. Et pour finir avec Jacques Borel, parce qu'on ne va pas faire l'émission que sur lui, quoique on pourrait, il a inventé le ticket restaurant.
Oui.
Donc, tu es obligé d'aller au restaurant, puisque l'entreprise va te payer une partie, tu vois, du ticket. C'est ça. C'est quand même incroyable. Il a racheté la chaîne Sofitel à l'époque. Ensuite, il fusionne avec Novotel. Ça devient après le groupe Accor. Et il est toujours vivant. Il a 99 ans, le monsieur.
Et il est toujours vivant.
Oui.
Eh bien.
Je suis en charge de le retrouver. Voilà. Avec Valérie, on va se
mettre. On a d'ailleurs. Est décédé hier Edgar Morin, à plus de. À 107 ou 108 ans. Le sociologue et philosophe Edgar Morin. Alors, le temps, c'est le pivot, c'est le fil conducteur de ce livre, ça explique. C'est-à-dire que, en fait, la nourriture, la food, devient food, justement, avec la contraction du temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Et tu es quelqu'un qui, intuitivement, et c'est vrai que depuis que je te connais, depuis plus de 15 ans qu'on se connaît, eh bien, on a toujours bataillé sur ce problème de temps, et parce que tu l'as tout de suite perçu, le temps allait modifier complètement les habitudes alimentaires.
Ouais. Donc, avec justement donc le self-service, l'idée d'aller se servir soi-même.
On n'a plus le temps.
On n'a plus le temps, voilà. Mais surtout plus le temps de cuisiner. Pourquoi? Parce que c'est moi j'aime, alors ma spécialité bien sûr c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie également, c'est le sport qui est fondamental, c'est la lecture aujourd'hui, que j'en parle de plus en plus dans mon club privé, le Hit Club, mais le temps est quelque chose de très important, parce que on a tous 24 heures par jour. Mais on ne dort pas assez, on passe beaucoup plus de temps sur les transports, dans les transports en commun que quasiment dans notre travail. Quelquefois, on fait des métiers qui sont assez astreignants, qui ne sont pas très, gratifiants. Et il y a une forme aussi de dépression qui se met petit à petit en place, avec l'âge également. Et le fait de vouloir manger vite, on a gommé le repas de famille. Je l'ai remarqué très vite au Québec, tu vois. Au Québec, moi, ce qui m'a vraiment choqué à l'époque, j'ai immigré en 2010. C'est qu'il y avait une télévision quasiment dans toutes les pièces. Que les parents ne mangeaient pas avec les enfants, quoi. C'est quand même étrange, s'ils n'ont pas la même heure, tu vois, voilà. Et puis, il y a eu l'avènement aussi du micro-ondes. Mais une hérésie totale, le micro-ondes. C'est une invention de l'armée, en fait, le micro-ondes. C'est arrivé par accident, tu vois. Donc, il y a des études qui prouvent, non, c'est totalement inoffensif. Quoique, lisez bien votre notice des micro-ondes. Peut-être que certains auditeurs de Radio Courtoisie l'utilisent encore. Il ne faut pas manger la nourriture qui sort du micro-ondes avant de l'avoir laissé reposer au moins 10 à 15 minutes. Oui, ça a le temps de refroidir, vous direz. Mais bon. Parce que les molécules s'entrechoquent, ça continue. C'est comme l'eau de ville. Tu sais que j'ai fait des travaux aussi là-dessus. L'eau de ville que vous buvez avec le chlore, ben le chlore va continuer son action lorsque vous le buvez. Donc, ça va détruire votre microbiote. Donc, cette contraction du temps, on la retrouve de partout, hein, Nicolas, effectivement.
Oui.
Et dans la nourriture, avec cette absence de repas. Aujourd'hui, on a des plats préparés. Boum, on fait au micro-ondes. Ding, c'est prêt. On mange devant la télé, devant les jeux vidéo, devant une visio où on parle en mangeant. Non. Manger, c'est déjà assis. Quand je dis ça, j'ai Valérie qui sourit certainement parce que quelquefois, moi aussi, je mange debout, notamment le matin avant de partir. Tu vois, on est tous un petit peu pris par le temps, un petit peu pressés. Et la société moderne a répondu à nos attentes. Je dirais, les industriels, bon, déjà, ils se foutent de notre santé. On le sait, ils sont là pour faire de l'argent. Mais la santé n'est pas du tout leur priorité. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on consomme plus et qu'on consomme rapidement. Et ils répondent en fait à la demande. Et la demande, c'était, on n'a plus le temps de cuisiner. Donc, plat préparé, micro-ondes. Et voilà, on mange à la maison comme au restaurant. Là aussi, c'est une grosse fracture. Je pense que nos grands-parents ne mangeaient pas aussi diversifié que nous aujourd'hui. En plus, avec les services comme Uber Eats, tu vois, c'est effrayant. C'est effrayant. Un jour, tu manges thaïlandais, l'autre jour, tu manges couscous, kebab, hamburger, il y a même des bœufs stroganoff, en fait, tu as de tout, quoi, tu vois. Donc, ça déstructure totalement déjà une culture culinaire. Et moi, ce qui m'a impressionné le plus quand j'ai travaillé sur ce livre, c'est que comment un pays comme le nôtre, où l'art culinaire fait partie vraiment de nos points forts, quoi. Voilà, on a des grands chefs, etc. Et on les a encore, fort heureusement. Mais le restaurant s'est banalisé. Il s'est banalisé, pourquoi? Parce qu'il y a eu les restaurants du midi. On n'allait jamais au restaurant le midi. Les ouvriers apportaient la gamelle, tu vois, où on rentrait chez soi, puisqu'on avait le temps, donc pour manger en famille, même le midi. Et donc, ça... totalement modifié nos habitudes alimentaires et nous nous sommes calqués sur les États-Unis parce que je voulais vraiment parler du plan Marshall, mais aussi de la révolution verte. Je vais te laisser ensuite enchérir là-dessus. Je sais que tu connais aussi ce sujet, le remembrement, etc. C'est-à-dire que l'American food, c'est pas juste Coca-Cola, McDonald's et bien sûr Kellogg's, le petit déjeuner à l'américaine avec les fameux cornflakes. Moi, ça me faisait rêver. Ah, cornflakes, un bol de lait. Je sais pas. Tu en as mangé des cornflakes quand tu étais enfant, quand même.
Mais j'ai mangé toutes ces saloperies. J'ai mangé des Rice Krispies.
Rice Krispies. Alors, Nicolas, les Rice Krispies, tu les mangeais avec du lait froid, du lait tiède ou du lait chaud? Oui. Tu t'en souviens?
Bonne question. Je crois que c'était du lait chaud.
Ok, donc il ramollissait.
Oui.
C'est ça. Voilà. Donc des céréales extrudées avec un index glycémique au taquet, plus du sucre. Parfait.
Quelle horreur. Quelle horreur.
Et on nous vendait ça comme un petit déjeuner complet. Pourquoi? Parce que les États-Unis, l'Amérique, ça a toujours été le progrès, en fait. Et nous, on a... J'en veux là, par contre, tu vois, aux politiques. Et j'apprécie De Villiers lorsqu'il parle de romans français, tu vois, de toute cette culture française. Je dirais les rois de France. On pourrait très bien faire un Game of Thrones en France avec toutes les histoires autour des rois de France. On a des histoires incroyables. Et on n'a pas profité de ça. La France a inventé le cinéma et on se laisse, si tu veux, embarquer par des blockbusters américains qui sont totalement inventés, tu vois. Et nous, on n'a pas exploité ce patrimoine national. On n'a pas fait aimer la France aux Français. Et j'en veux particulièrement aux politiques pour ça.
Bien sûr, c'est bien sûr.
Le côté patriotique, tu vois. Aujourd'hui, tu dis patriote, bien sûr, tu es classé.
Extrême droite. Extrême droite. Voilà. C'est réglé.
C'est triste, tu vois. C'est triste pour des gens de mon âge qui ont connu aussi l'arnaque de SOS Racisme. Hein. Parce que moi, contrairement à certains, j'avoue mes erreurs. Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des amis ici, mais avant, moi, j'étais pro-Europe parce que j'étais ignare. J'étais un idiot. J'étais certes un entrepreneur, j'ai fait beaucoup de start-up, j'ai toujours été innovant, mais je ne connaissais rien à la politique, en fait. Moi, la gauche, c'était toujours la gauche de marché, la gauche des ouvriers, la gauche du travail, comme mon père, qui avait une petite imprimerie, qui était un communiste, à la limite, capitaliste. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Je dirais, il avait du cœur, voilà, mais c'était la gauche de marché. Aujourd'hui, les jeunes, la gauche, c'est quoi? C'est l'antiracisme, c'est le LGBTisme, c'est le pro-palestinien, c'est... Et cette gauche sociale est devenue une gauche donc sociétale. Et donc moi, j'ai voté oui à l'Europe. Oui, je l'avoue. Jetez-moi des pierres, voilà. Mais j'étais un ignare. Je faisais pas le travail que je fais aujourd'hui, par contre. Hein, voilà.
Faut avouer à demi pardonner.
Oui, non, mais il faut avouer. Il faut avouer nos erreurs, etc. Et c'est pour ça que, tu vois, je peux parler à des gens qui ne pensent pas comme nous, entre guillemets. Parce que je pense qu'ils n'ont pas encore les informations, ou ils ne sont pas passés de l'autre côté. Ils ne sont pas éveillés, comme on dit. Tu vois, ils n'ont pas vu la lumière encore. Mais je ne désespère pas.
Non, mais il ne faut de toute façon jamais désespérer. D'ailleurs, tu te demandes à la fin de ce livre Alors, ça s'appelle... Tu ne mets pas American Food, mais tu termines justement sur American Food Game Over. L'avenir nous le dira, Game Over, évidemment. La partie est terminée. Il y a, et c'est entre autres un des optimismes, de toute façon, qui t'ont toujours caractérisé. Tu es quelqu'un d'optimiste, fondamentalement, Gilles, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est justement d'autant plus appréciable que d'avoir des amis qui le sont. Ça évite de trop déprimer et, entre autres, tu relèves qu'un Robert Kennedy Jr., avec sa façon, d'ailleurs tu précises bien, quel est le mode d'action de l'actuel ministre, chef de l'administration de la santé américaine, qui a une façon d'agir, entre autres sur l'alimentation, il en a fait un élément central de sa politique, tout à fait intéressant.
Oui, je dis en fait que Robert Kennedy Jr., en fait, Robert Kennedy Jr. est un sacré emmerdeur, voilà. Donc,
c'est ça.
C'est un peu... on l'a connu, pardon. On l'a connu, pendant cette fameuse période donc d'ingénierie sociale qui est le Covid. Et c'était voilà un des leaders, je dirais, anti-vax. Enfin, moi personnellement, je l'ai connu à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, avec d'autres, bien sûr, toute son équipe et Trump, etc., se sont rendus compte que les Américains sont malades depuis plusieurs décennies, hein, principalement à cause de leur alimentation. Donc, ils ont mis en place, là, depuis, le deuxième mandat de Trump, un plan qui s'appelle Eat Real Food, donc manger de la vraie nourriture. Et ils ont, ce qui est très important pour moi, ils ont inversé la pyramide alimentaire, parce qu'il faut arrêter avec les céréales. Hein. Les céréales sont pas forcément, on n'a pas besoin de beaucoup de céréales, on a besoin de bonnes sources de protéines, que ce soit les œufs, les protéines animales ou protéines végétales. Il a inversé ça, donc il a mis la viande en tout premier. En même temps, je mettrai un bémol parce que tu as lu le chapitre sur la viande, qui est assez important, parce qu'il y avait beaucoup à dire, parce que les États-Unis ont des parcs d'engraissement, notamment au Texas. Pour tous ceux qui sont allés visiter le Texas en voiture, qui ont traversé comme ça ces immenses plaines avec que du bétail à perte de vue, interdit de rouler vitre ouverte. Hein. Ça pue, c'est une odeur incroyable. Et donc, ces parcs d'engraissement peuvent accueillir jusqu'à 100 000 bovins. C'est un très gros producteur de viande, les États-Unis.
Les fameux feedlots. Les fameux feedlots,
c'est ça. Et on les connaît parce qu'on en a entendu parler. Vous avez traité le sujet ici à Radio Courtoisie sur GPTV, sur le Mercosur. On va importer aujourd'hui de la viande brésilienne. Le Brésil est un très, très gros producteur de la viande hormonée, donc de la viande avec des OGM, puisque ce sont des pays qui produisent de l'OGM. Donc, ce sont essentiellement des animaux qui sont nourris aux OGM. Et donc, la viande aux États-Unis, elle est dégueulasse. Alors moi, ça tombait bien, c'était ma période entre guillemets végan, parce que j'avais fait des enquêtes dans le milieu de l'exploitation animale, et puis parce que j'étais sensible, hein, voilà, c'est mon côté peut-être un peu féminin. J'ai toutes les images que j'ai vues, j'ai arrêté de manger de la viande depuis quelques années, et là j'ai réintégré. Hein. On peut le comprendre, ben certains ne l'ont pas compris, mais je l'ai réintégré régulièrement en choisissant de la bonne viande, parce que en France, on a une viande incroyable. Une viande incroyable. Mais il faut choisir les éleveurs. C'est pas comme le cochon. Tu vois, je cite très souvent Pierre-Guillaume Mercadal parce que c'est même pas 1% de la production mondiale. Ces producteurs comme lui, qui sont des producteurs bio où les animaux sont en plein air, ils sont nourris avec des glands, etc. Je dirais les 26 millions de cochons qu'on mange tous les ans en France, 99%, ils sont dans des élevages intensifs. Ils mangent là où ils chient. Les truies sont enfermées dans des stalles en fer pour pas écraser le petit, pour les nourrir. C'est des machines à viande. C'est une horreur. J'avais dit sur cette chaîne, j'ai enquêté dans ce milieu-là. J'ai rencontré des industriels, enfin des éleveurs de cochons industriels qui ne mangeaient pas leur production. C'est quand même effroyable. Voilà. Le jambon, n'achetez surtout pas de jambon espagnol. Parce que le jambon espagnol est encore plus... Il y a beaucoup plus d'antibiotiques qu'en France. Parce que les antibiotiques protègent justement de ces conditions affreuses. Donc on a rendu, tu vois, nos animaux comme des machines pour manger de la viande tous les jours. Et ça, c'est vrai que les États-Unis, avec justement cette mode du hamburger, tu sais, dans un hamburger, tu peux retrouver 10 animaux différents, en fait. C'est un mélange, tu vois. Et en plus, depuis les années 2000, il y a ce que j'appelais la pink slim. Tu sais, c'est ces résidus de viande qui sont collés à l'os, qu'on va à coup de Karcher, tu vois, chez Nicolas Sarkozy, donc enlever comme ça de l'os pour faire une espèce de pâte et puis pour manger des knackis, tu vois. Voilà. Donc la viande, notamment aux États-Unis, est un point délicat, parce que vous l'avez compris, c'est de la mauvaise viande. Mais le point vraiment positif, c'est que Kennedy Jr., toute son équipe, Trump, se sont vraiment rendu compte que leur alimentation était délétère. Et qu'ils veulent arrêter de financer, je dirais, cette industrie. Voilà. Plus aller vers la santé, parce que là aussi, c'est une question d'argent. Parce qu'ils n'ont pas peut-être la sécu comme nous, avec qui remboursons tout et n'importe quoi. Mais les États-Unis, ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent d'avoir un peuple qui est malade. Donc, c'est un renversement. C'est la boucle, si tu veux, qui se boucle, qui se referme, tu vois. Ils se sont rendus compte que l'industrie a pris beaucoup trop de place, notamment dans la production, et n'a pas pris assez en compte les contraintes sanitaires et de santé de la population. Donc c'est pour ça que je voulais finir sur Kennedy Junior en finissant également par cette phrase American Food Game Over avec un point d'interrogation. Bon, alors tu dis que je suis optimiste, peut-être en public. En privé, je suis beaucoup moins. Je suis peut-être Nicolas Stoker en privé. Mais, mais si tu veux, je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que cette alimentation, malheureusement, est délétère et qu'elle nous a rendu addicts, parce que l'alimentation, c'est une addiction, en fait.
Alors, oui, ça justement, et d'ailleurs tu expliques, chose assez terrible, que parmi tous ceux qui vont investir dans l'industrie alimentaire aux États-Unis, il y a les marchands de tabac, Philip Morris par exemple, champion toute catégorie de l'étude de l'addiction. Et donc on se dit que lorsqu'ils détiennent des parts entières de l'industrie alimentaire, eh bien le risque est évidemment aussi de faire dans l'addiction. Et ça, c'est criminel en plus d'être de la mauvaise bouffe. Ça va plus loin. C'est un des éléments les plus inquiétants. Hein.
Oui, je savais que c'était un point que tu allais relever. C'est quand même assez incroyable que les cigarettiers, dès les années 70, on a commencé un petit peu, je dirais, à connaître les méfaits de la cigarette, quand même. Bon, quand on voyait des toubibs faire la publicité, tu vois, des Lucky Strike ou des Philip Morris en disant non, mais. Moi, je me souviens, mon père qui disait à ma mère, mon père a beaucoup fumé des gitanes. Gitanes, quand même, bon, allez. La cigarette française par excellence, avec la gauloise. Et il disait, regarde, notre médecin, il fume. C'est pas mauvais pour la santé. Bon, malheureusement, il est mort d'un cancer de la gorge. Mais
voilà.
Les cigarettiers donc, ont investi massivement dans les années 70 dans l'agroalimentaire. Et notamment Philip Morris, qui dans les années 80, en fait, il va racheter Kraft Food. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a aussi un point très intéressant que je soulève après avec... par exemple, Unilever, qui est un groupe alimentaire énorme, tu vois, va racheter, mais là aussi, c'est juste un pied de nez, tu vois. Le même jour.
Là, le cynisme.
Je regarde le livre, c'est le 12 avril 2000. Il rachète le même jour Ben & Jerry, les glaces, et Slimfast.
Tu vois. Donc, à la fois, ce qui fait grossir et ce qui fait maigrir.
Alors,
mon Dieu. Moi,
ce qui fait maigrir, je ne suis pas un pro Slimfast. Hein, je me souviens. Non, tout le monde se souvient de Clémentine Célarier qui faisait la publicité pour Slimfast. C'est ces espèces de shakers hyper protéinés qui vont réduire les calories et qui vont nous faire mincir. Mais bon, je trouvais quand même qu'Unilever, c'est. Voilà. Donc, ils sont de partout. Tout comme BlackRock et Vanguard. Hein,
Alors ça, c'est la financiarisation. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les conseils d'administration, aussi bien de l'alimentaire que de Big Pharma et autres, on retrouve ces grands gestionnaires financiers que sont BlackRock et Vanguard, par exemple.
Je dis, l'agroalimentaire, c'est vraiment un pilier de la finance mondiale. Mais voilà, après BlackRock, Vanguard... D'ailleurs, où est-ce qu'on ne les trouve pas? Tu vas me dire, parce que... C'est comme les Rothschild, tout ça. Enfin, c'est des gens qui sont de partout, en fait. Ils investissent de partout.
Mais ils investissent, des terres, tu vois.
Ils investissent sur des marques soi-disant concurrentes. Je parle en début de chapitre de livres de Coca-Cola et de Pepsi. Cette fameuse guerre. En fait, les actionnaires sont quasiment les mêmes. Tu vois. C'est on invente de la fausse concurrence. Donc, avec un positionnement marketing qui est différent. En fait, Coca-Cola, c'était plus pour papa. Les jeunes buvaient du Pepsi. Pourquoi? Parce que Pepsi, ben, il y avait Michael Jackson, il y avait tu vois, Madonna, Britney Spears, etc. Donc il y avait ce côté jeunes dans Pepsi. Et donc cette American Food, comme tu l'as dit en introduction très justement, est devenue un empire mondial. En fait, ils ont exporté leur culture dans le monde entier.
Oui, c'est cet aspect mondial, évidemment, qui n'est pas la moindre des caractéristiques de cet American Food, un livre de Gilles Lartigot, édition, comme toujours, Winterfield, livre donc, une invasion qui a commencé par une libération. Eh bien, on va y revenir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce libre journal de géopolitique profonde, tout de suite après ce très court bobino.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr, et podcast.rc.fr.
Eh bien voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde. Même Radio Courtoisie se met à parler de podcasts, de Deezer, de Spotify. J'en vois un qui rigole dans sa barbe, c'est Gilles Lartigot, mon invité du jour avec son livre « American Food » aux éditions Winterfield. Gilles,
d'ailleurs, Nicolas, tu parles de podcast. Est-ce qu'il y a un mot en français pour dire podcast?
Non, c'est un enregistrement radio peut-être.
Après, moi, l'anglicisme ne me dérange pas tant que ça. Voilà, il ne faut pas que ça devienne exagéré.
Mais le problème, c'est que c'est la communication, c'est comme la bouffe, c'est comme c'est comme la nourriture. Ça a été totalement. Encore une fois, ça fait partie de ce soft power.
Oui, le soft power, bon, là, ça reste que des mots, quand même. Tu vois. C'est pas de la nourriture qui va...
Ouais, mais ça en dit long, ces mots, quand même, que si on parle anglais, si on en vient... Parce que l'informatique, tu parlais de l'informatique en disant, il faut, et à juste titre, il ne faut pas négliger et renoncer à l'informatique. Mais l'informatique, ce n'est... Moi, un informaticien, quelqu'un qui travaille dans la communication et dans l'informatique... Parfois, je ne te cache pas, et alors surtout s'il est jeune, d'une génération, moi je suis né en 68, ceux qui sont nés, on va dire, autour de 2000, voire après, des fois je ne comprends même pas ce qu'il raconte. Je ne comprends pas.
Il parle au code, il parle en wesh.
Oui, ce ne sont que des mots anglais, et techniques en plus de ça.
Ouais, certainement. Après voilà, je dirais là aussi.
Alors après, c'est la mode. Après, il y a les modes et tout ça. Et d'ailleurs, ton livre, tu le débutes sur... j'aimerais bien peut-être qu'on y revienne, parce que à chaque fois, que ce soit pour le hamburger, que ce soit pour les différents éléments, les Kellogg's, le Coca, avec la concurrence Coca-Pepsi, eh bien... j'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu du chewing-gum, parce que tout débute par le chewing-gum. Hein, cette libération, eh bien le GI, il mâche un chewing-gum, et t'explique d'ailleurs que, tu l'as dit au début, mais ce que tu n'as pas dit au début, mais que tu écris dans ton livre, c'est que même à l'origine, pour les Américains, mais c'est un peuple suffisamment plastique, eh bien c'est aussi une découverte qui leur vient du territoire américain, mais de ceux qui étaient là avant eux.
Ouais, d'Amérique du Sud. On ne va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais il y a une société qui était un géant en fait du chewing-gum, c'est Wrigley. Alors Wrigley, ça s'écrit Wrigley. Je pense que tout le monde se rappelle de ces Juicy Fruits, donc avec un magnifique emballage jaune, tu vois, jaune et rouge, avec un goût totalement artificiel, si tu veux, mais qui est très très addict. Et ce chewing-gum, je le disais en début d'émission, zéro intérêt nutritionnel. C'est un shoot de sucre. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de chewing-gum avec du sucre. On a des chewing-gums avec des édulcorants. Alors, je ne veux pas trop parler d'édulcorants, parce qu'il y aura un dossier certainement à la rentrée, en tout cas avant la fin de l'année. Je viendrai le défendre ici. Mais les édulcorants sont vraiment là aussi une invention industrielle, avec de fausses promesses. Mais ce chewing-gum a donné, je dirais, cette habitude d'avoir quelque chose en bouche. Et de créer une sensation, non pas de satiété, mais qui donne faim, parce que qui dit chewing-gum dit salivation. La salive, ça sert à quoi? La salive, ça sert à aider à digérer les aliments. Mais alors, qu'est-ce que fait le chewing-gum si ça génère de la salive et que le corps n'y a pas d'entrant? Donc ça dérégule et ça crée la faim, en fait. Ça crée la faim. Plus, bien sûr, tous les problèmes dentaires. Voilà. Donc ceux qui ont des couronnes ou des implants comme moi interdits les chewing-gums depuis très longtemps. On a d'autres choses aussi pour avoir la bouche fraîche. Hein. On a ces fameux ans. Tu te souviens les ans, les réglisses ans, les lajonies aussi. Les lajonies, une marque française extraordinaire. Moi j'adore les. Tu sais toutes ces vieilles conserves de les marques de sardines, de réglisses comme ça des années 50, 60. C'est magnifique. C'est très old school.
Ta génération est comme ça, c'est une génération de nostalgiques.
Oui, non nous pas de boomer, nous sommes des enfants de boomer, ne nous traitez pas de boomer. Voilà.
Voilà. C'est parce qu'il y a eu un défaut, il y a eu un défaut de transmission entre la génération boomer et la génération qui a suivi, qui a cette nostalgie. Parce qu'il y a quelque chose, comme si quelque chose ne nous avait pas été transmis, qui produit justement, à mon avis, cette forme de nostalgie.
Oui. C'est la fameuse génération X. On n'en parle pas assez, en fait. Cette génération X, voilà, qui est née juste après donc les boomers, on a connu des révolutions extraordinaires. On passe du téléphone à cadran au Minitel et après à l'Internet. Voilà, on a assumé une explosion de ce qu'on appelle le progrès que n'a pas connu les générations précédentes. Voilà. Donc, si tu veux, le chewing-gum, voilà, il n'y a pas forcément à en dire plus, mais c'est pour moi le point de départ. Et je te disais tout à l'heure, moi, je voudrais, si tu le souhaites, bien entendu, qu'on parle de la révolution verte, qu'on parle du remembrement, qu'on parle de ses conséquences de l'américanisation, où avec Eder Pisani, on va, avec le plan Marshall, recevoir donc des financements et surtout moderniser notre agriculture. C'est donc là.
Oui, on peut tout à fait. Chers auditeurs, posez bien vos questions hein, dans ce livre Journal de Géopolitique Profonde. J'en ai vu déjà plusieurs qui sont tombées. On va développer dans la dernière demi-heure l'échange avec les auditeurs. Donc allez-y, posez vos questions, envoyez des messages, embêtez peut-être même Patrice au standard. On répond aux questions à partir de 10h, c'est dans 9 minutes. Alors oui, bien sûr, ça fait partie, j'ai ce sujet et puis j'en ai un autre avant d'arriver à peu près à vers 10h. Okay. Donc oui, Gilles, en effet, cette révolution verte, ces financements, ce moyen, cette façon de faire évoluer finalement l'agriculture, la paysannerie va avoir un impact global, puisque d'ailleurs, de toute façon, et les États-Unis et l'Amérique, c'est comme ça, ils cherchent à avoir la main sur l'ensemble de la chaîne de la production de la terre jusqu'à l'assiette.
Oui, c'est pas question de pouvoir, c'est question aussi de business, en fait. Voilà. Les machines-outils, oui, oui. Les fameux John Deere, oui, les tracteurs, tu vois. Oui. Donc, il faut se rappeler que la France, à la sortie de la guerre, donc, est affamée. On est dans une situation d'urgence. On va voir donc chez nos amis américains qui nous ont libérés. C'est marrant parce que les Russes, on n'en parle pas. Tu sais que la jeune génération, vraiment, sont des russophobes. Ils sont complètement ignares, en fait. Hein. Ils ne savent pas qu'ils ont combattu le Troisième Reich. Enfin, voilà, ils ont payé le prix du sang, quand même, hein, les Russes.
Mais tout est fait aussi. Nos médias font le maximum pour qu'il en soit ainsi. Hein. On ne parle même pas du 9 mai, par exemple.
Non, mais c'est pour ceux qui ont un minimum de connaissances d'histoire, je ne dis pas d'être une érudit. Mais c'est inconcevable, les journalistes de plateau, c'est la propagande, la doxa, c'est juste inconcevable pour des gens comme nous qui avons un minimum d'informations. Nous ne sommes pas des complotistes, nous basons sur des faits. Donc là, par rapport donc, à cette révolution verte, donc Edgar Pisani, on va se tourner vers nos amis américains. Mais les États-Unis, il faut savoir que ce n'est pas la France. Les États-Unis, c'est des territoires déjà vastes, c'est 52 États. Il y a des plaines, des champs à perte de vue. Qu'on a peut-être dans la Drôme, chez nous, mais en Bretagne, je parle de la Bretagne parce que j'ai vraiment, bon, je ne suis pas breton, j'adore la Bretagne, j'ai beaucoup d'amis de bretons, Valérie, son père est natif donc de Fouesnant, et on aime beaucoup la Bretagne, ce territoire sauvage, mais il n'y avait que des petits bocages en fait, que des petites parcelles. Mais ces petites parcelles, c'était la polyculture, dans les petites parcelles, on ne pouvait pas faire rentrer des tracteurs. Il n'y avait que les bêtes, tu vois, qui pouvaient labourer, etc. Donc, il y a eu cette époque-là qui a laissé encore des plaies béantes. Vraiment, parlez-en aux Bretons, vos amis Bretons, le remembrement des terres. C'est un peu comme le Covid. Il y a eu les pros et les anti. Il y a eu ceux qui ont accepté de vendre leurs terres, en fait, de faire un regroupement. On appelle ça le remembrement parce qu'au lieu de 10 parcelles, ben, il n'y en avait plus qu'une. Ça a défiguré totalement le paysage français. Donc, ils ont appliqué bêtement la méthode américaine, qui pouvait peut-être marcher dans des territoires comme la Drôme et d'autres territoires français. Je suis assez mauvais en géographie, mais tu vois, tous les territoires qui produisent énormément de céréales. Et il y avait une problématique aussi pour produire de la viande, notamment du cochon. Et Edgar Pisani, il a regretté jusqu'à la fin de sa vie, il a voulu faire à cette époque-là de la Bretagne une terre à cochon. Et quand je vous dis algue verte, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est une catastrophe sanitaire, en fait. un des plus beaux coins français qui est la Bretagne, d'être envahi tous les étés par ces algues vertes, et même quasiment toute l'année, à cause justement de cette production intensive de cochons. Donc pour en revenir au remembrement, il y a eu des paysans qui étaient contents en fait de vendre leur terre, et puis on leur a loué une autre parcelle, tu vois, par-ci, par-là, et il y a eu la création de la FNSEA, il y a eu ces riches propriétaires terriens, où le paysan est devenu un salarié agricole. C'était le début de la fin, en fait. C'est la révolution verte. Nous avons trahi nos paysans. Purement et simplement. Et là, on peut le dire avec notre recul de l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément juger ce point crucial qui sont les années après-guerre, parce que je vous rappelle que la France mourait de faim. On ne produisait pas assez. Et là, on était en état quasiment de surproduction. Donc, exportation, etc. C'est devenu donc le marché et puis la bourse comme ça agricole. Et donc, ce remembrement a laissé des plaies béantes parce que ça a saccagé toutes les terres en Bretagne pour des questions de production. Voilà. Là, on ne pensait pas forcément.
Et maintenant,
qualifié.
On a carrément des ingénieurs agricoles. C'est devenu une science. Et investissent, tout comme il y a, on parlait de BlackRock tout à l'heure, investissent aussi des oligarques, des grands milliardaires qui achètent des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'hectares, comme par exemple Xavier Niel, pour ne citer que lui, hein, qui est particulièrement actif et nocif, je dirais, en Bretagne. Donc, ça, c'est. C'est en effet, mais c'est aussi peut-être, Gilles, la faute originelle d'une certaine paysannerie qui a accepté de jouer ce jeu-là aussi. Et la PAC qui a été aussi dans l'agriculture intensive, qu'on le veuille ou non, et Chirac. Et on disait, ah, ce brave Chirac, il s'est tapé au cul des vaches. Mais enfin, c'est la FNSEA, c'est-à-dire que c'est une faute française, hein. Je sais pas si on a trahi, tu crois ?
Je sais pas, j'ai mis une pièce dans le cochon, là, vous avez vu, et Nicolas s'est emballé de suite. Là, je lui ai laissé, il est parti, donc là, sa colère habituelle. Non, je plaisante. Mais non, tu as tout à fait raison. Mais tu sais qu'en fait, il y a un Davos breton, en fait. Il y a une mafia en Bretagne.
Ah oui, ça, exact.
Voilà. Il y a un Davos breton.
Tu peux en dire plus, deux mots, si
mais écoute,
tu veux,
ça serait un sujet en part entière. Donc, tu sais que j'aime beaucoup venir chez vous. Donc, sachez que j'ai quelques pépites d'ici la fin de l'année. Mais donc, pour en revenir donc à ce remembrement, donc ça a été aussi un point crucial pour le changement donc de l'agriculture. Et nos paysans sont devenus voilà des salariés agricoles et ils ont été soumis à la PAC. Alors la PAC, c'est la régulation des prix. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont plus maîtres de rien, en fait.
Non.
Et aujourd'hui, on les expulse de plus en plus de leurs terres en leur mettant des contraintes qui sont effroyables. Et en même temps, tu signes avec le Mercosur des pays qui n'appliquent pas les contraintes que tu imposes à tes propres, j'irais, paysans. Comment on peut accepter ça, Nicolas ? Ce n'est pas possible. C'est vraiment une trahison, hein.
Oui.
Moi, j'aimerais beaucoup hein, qu'on ait Nuremberg, si tu veux, post-Covid et puis ces dernières décennies où on trahit notre pays, on trahit les valeurs de nos anciens, tout ça pour des intérêts européens, pour des gens qu'on n'a pas élus. Bon, je vais pas vous
et puis ça va finir
ici.
En désert agricole, parce qu'en plus, c'est maître du paysage, et déjà le paysage a été en partie modifié, et bien aujourd'hui, le paysage va être abandonné. Ces jardiniers du paysage, de l'espace, que sont les paysans, parce qu'aujourd'hui, on fait mourir, après avoir fait pousser le culte de l'intensivité, on laisse mourir notre paysannerie. On ne va pas reprendre le débat sur la dermatose nodulaire dite contagieuse, qui n'est pas contagieuse, d'ailleurs, c'est faux. Rien que le mot DNC est faux, car ce n'est pas une contagion. Quand on se fait piquer par un thon, hein, ou par une bestiole, par un insecte, c'est pas une contagion. Contagion, c'est lorsque ça passe d'un bovin à un autre, hein, ou d'un bovin à un homme, d'ailleurs. Ce n'est absolument pas le cas de cette DNC. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'en finir, et d'en finir aussi avec la viande, hein. Avec la viande. On va vers des viandes synthétiques, hein.
Alors, Je suis assez, je dirais, partagé par rapport à cette évolution sur la viande synthétique. Je pense que l'élevage industriel et l'élevage intensif a encore je dirais, de belles années devant lui. Puisqu'il y a beaucoup de pays, comme je te disais, les pays d'Afrique du Sud, notamment d'Amérique du Sud, pardon, et le Brésil, l'Argentine, etc. Pour changer une industrie comme celle de la viande, il va falloir plusieurs décennies. Voilà. Sachant que les fameux 1%, en tout cas les 0,1% qui nous gouvernent, sachez qu'ils mangent de l'excellente viande et principalement de la viande française. Voilà. Dans tous les pays européens aussi, il y a des viandes d'exception, il n'y a pas que la France. Mais réellement, tu vois, je vais régulièrement, moi, au salon de l'agriculture. Alors, je ne suis pas pour aussi l'exposition des bovins, etc. On sait que ce n'est pas la place. Voilà. Mais quand même, on voit des bêtes, mais juste extraordinaires, quoi. Moi, je me crois dans un film Marvel, tu vois, quand je vois ces taureaux, ces trucs avec des couilles mais énormes, tu vois, des ballons de foot, des têtes, c'est quelque chose, en fait, la paysannerie, vraiment. Et j'espère que ça deviendra, qu'il y aura encore des irréductibles. Et c'est pour ça que je suis revenu en France. Hein. Tu sais, le Québec n'a pas cette volonté comme les Français de résister. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants dans l'âme. J'en suis persuadé. Voilà.
T'en es persuadé. Tu vois, t'es optimiste.
Mais je suis optimiste parce que je suis Marseillais aussi. Tu sais que j'exagère donc régulièrement et je m'en amuse. Mais sincèrement, je crois que le Français est un chieur, en fait. Voilà, dans le bon sens du terme. On ne se laisse pas faire.
Tout à fait, Gilles. Il est 10h, le moment de commencer. Ben, on a à poser des questions, je vois qu'elles tombent les unes après les autres. Ben, tiens, déjà, une pierre dans notre jardin, mais d'un message qui en réalité est sympathique de cet auditeur. « Cher Nicolas, mes oreilles saignent ce matin avec autant d'anglicisme. Monsieur Lartigot a tort sur ce point. La langue est essentielle au sens propre. C'est elle qui forge la pensée pour manipuler l'IA. Notre beau français est justement particulièrement utile pour sa précision. Deux points. Les prompts, entre parenthèses, les données d'entrée, sont ainsi beaucoup plus efficaces en français. » Pour le reste, bravo à Monsieur Lartigot pour démasquer l'imposture alimentaire. Quant à vous, Nicolas, continuez à combattre pour notre belle langue.
Je peux répondre à ce monsieur.
Ah
merci.
Bien sûr, merci. C'est pour ça.
Merci pour ce compliment. Voilà, rassurez-vous, American Food, c'est que le titre, le reste, il n'y a pas d'anglicisme. Moi, je suis un amoureux de la langue française. Voilà, j'essaye d'écrire simplement à mon niveau. Je ne suis pas du tout un littéraire. Je prends beaucoup plaisir à écrire. D'ailleurs, maintenant, je vais sortir aussi des livres audio. Je vous donne cette exclu aussi également. Apparemment, j'ai une voix qui est assez agréable. Donc, j'écris un peu comme je parle, tu vois. Je suis un amoureux, moi, de la langue française. Je suis un des premiers défenseurs de la langue française. C'est pas pour ça que je ne vais pas utiliser des termes anglais. Voilà, je ne me refuse rien. Je ne me refuse rien. Par contre, je défends la langue française. Voilà, c'est pas parce que j'utilise des titres comme Hit ou American Food. Moi, tu connais ma passion pour la musique. D'ailleurs, il y aura un prochain ouvrage sur la musique. Il faut absolument que j'écrive sur cette passion qui me ronge depuis que je suis adolescent. Mais tu verras avec un point de vue sociétal et tu vas adorer encore ce bouquin. Vraiment. Donc, pour moi, le rock, c'est anglais. Voilà, le rock, ça sonne, c'est l'anglicisme. Pour moi, la chanson française, c'est Jacques Brel, c'est Brassens, c'est Léo Ferré, c'est Aznavour, c'est Gainsbourg, quoique ses mœurs sont complètement dégueulasses, je suis d'accord, mais c'est un génie aussi, c'est un poète, c'est voilà. Mais ce n'est pas le rock. Voilà, le rock, c'est de l'anglais. Donc je ne vais pas ne pas écouter de rock parce que je fais abstraction. Et très souvent, les albums, notamment les concept albums dans les années 70, comme The Wall ou Ziggy Stardust from Mars de David Bowie, si on peut ne pas passer à côté si on apprend un peu l'anglais. Il faut être aussi multilingue. Il ne faut pas se replier sur nous-mêmes, tu vois, et faire abstraction justement sur tout le reste. Et l'IA, ça en est un parfait exemple. Mais je suis un fervent défenseur de la langue française, donc je voulais rassurer cet auditeur. Voilà.
Mais eh bien, il est certainement rassuré, l'auditeur en question. Une auditrice, bonjour Nicolas et bonjour à votre invité. Nous allons bientôt, alors là tu vas te régaler de ce message de cette auditrice. Nous allons bientôt fêter nos noces d'or et je me souviens que mon chéri, au début de notre amour,
m'avait invité dans un Wilpi. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et j'avais découvert avec bonheur ce style de restauration. Je pense que s'il renouvelait cette expérience, je divorcerais. Merci pour cette émission qui va être passionnante comme toujours.
Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, j'ai écrit ce livre-là, c'est vraiment pour les personnes de notre génération, je pense.
Oui, oui.
Tu vois, avec j'ai beaucoup de référents, tous les référents que tu trouves dans le livre, ça nous parle, parce qu'on a vécu cette époque-là. Et qu'est-ce qui reste, je dirais, à la fin de ta vie? Ben, il reste tes souvenirs, hein. Nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine, hein, comme j'ai écrit dans mes livres. Mais il reste aussi les émotions. Et peut-être quand vous vous souvenez du première fois que vous avez bu un Coca-Cola, ou voilà, on sait que c'est mauvais aujourd'hui. Moi, j'en bois de temps en temps. Je ne suis pas du tout un extrémiste, tu vois, que c'est dans l'alimentation, etc. Par contre, ce qui est aujourd'hui, je dirais, politique et manipulation sociétale, là, je suis plutôt extrême, en fait, dans mes jugements, parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas, voilà, au niveau des valeurs, etc. Tout comme la musique. Malheureusement, je sais que là, Jules était à Marseille hier, il a bloqué toute la ville, il y a 50 000 personnes, il a fait 100 000 personnes au Stade de France. Moi, je peux admirer peut-être sa carrière professionnelle, parce qu'il faut savoir que Jules, en fait, est un artiste indépendant. Donc, il ne s'est pas fait avec les maisons de disques. Mais pour moi, c'est inécoutable. Je suis désolé. C'est comme si vous faites, vous demandez un grand sommelier.
Il y a Nakamura, là, qui s'est produit encore dernièrement.
Je n'arrive même pas à prononcer son nom, tu vois, donc je ne pourrais pas. Bon, Jules, c'est un peu plus facile. Donc, voilà. Mais c'est une musique, en fait, que je ne comprends pas, parce que moi, j'ai des bases. J'ai des référents. C'est comme si tu te dis à un grand sommelier, tu lui fais boire un soda. Il ne comprendra pas, c'est pas du vin, quoi. Oui, mais voilà, tu sais, le fameux vin américain, etc. Donc, c'est que notre génération, nous avons de la culture. Et nous sommes en charge de transmettre cette culture à ceux qui veulent bien nous écouter, bien entendu. Et la culture musicale, pour moi, est très importante également. Il y a la culture française. On ne peut pas vivre que sur le passé, sur Jacques Brel, Charles Aznavour. Il y a des pépites. Moi, je suis un grand, grand fan de Michel Delpech, tu vois. J'ai sorti aussi des titres. Voilà. Je ne sais pas si tu te souviens de Patrick Coutin.
Bien sûr, je me souviens très bien de Patrick Coutin.
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage.
J'aime regarder les filles. On a dansé là-dessus en boîte de nuit, hein, quand on avait 18 ans. Hein.
Mais t'imagines ce titre-là aujourd'hui? Je pense qu'il ne passerait pas sur Radio France, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Donc voilà, j'aime la musique française, mais j'aime aussi la musique anglophone. J'aime aussi la musique américaine. D'ailleurs, le rock américain est très différent du rock anglais. Voilà, et puis il y a des... Comment on dit? Alors, allez, je vais faire dresser les cheveux sur la tête du précédent auditeur qui nous a laissé ce message. Il y a des masterpieces, voilà. C'est donc des albums cultes, voilà. Je voudrais vraiment en parler parce que ça fait partie également de notre culture générale. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir n'est plus aux spécialistes vraiment de domaine. Je pense que notre force peut être cette culture générale. Cette transversalité, tu vois, des fois je peux m'appuyer sur de la musique, de la bouffe, de la politique, tout ça, pour produire un concept ou des idées, ou voilà. Cette pluralité, on appelait ça la culture générale. Je ne sais pas si aujourd'hui on emploie encore ce mot-là, ou si c'est enseigné à l'école, je ne sais pas. Culture générale. Tu vois ce que je veux dire, Nicolas?
Oui, je veux bien, oui.
Tu vois? Tout à fait. Puis c'est, quand vous êtes cultivé, mais vous êtes le roi des dîners, en fait. On vous invite tout le temps. Parce que... Bon, moi, on ne m'invite pas beaucoup, mais je ne suis pas peut-être un bon invité. Je casse le moral, tu vois, où je plante l'ambiance.
C'est ça, ouais.
Mais voilà, entre voilà, les enfants, l'école, la pluie, le beau temps, Jules, etc. Bon, c'est là, tu vois, on n'a rien à dire. Mais amener un sujet comme, je ne sais pas, des sujets que vous apprenez et vous transmettez, vous racontez des histoires, mais c'est passionnant. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce que nous devons transmettre.
Tout à fait. Un auditeur, ce cher Denis, il est évident, cher Gilles Lartigot, il est évident que le McDo vous vend avec force photo des frites à un prix exorbitant et personne ne le voit. Si un restaurant ouvrier servait les mêmes frites, je veux dire une portion aussi minuscule à ce prix, l'ouvrier les jetterait à la face du patron, bien courtoisement.
Exact. Donc je me suis arrêté, pas récemment, mais lorsque j'écrivais American Food, je me dis, allez quand même. je vais retourner, tu vois, au McDo. Moi, j'en ai mangé les McDo. Hein. Même j'allais, quand j'allais au cinéma, j'amenais mon hamburger, tu vois. Donc, j'embaumais toute la pièce, la salle de cinéma. J'ai pas pu le manger, en fait. J'avoue, je suis allé prendre au drive un McChicken, parce que bon, j'avais quand même pas mangé du bœuf, mais rien que l'odeur, ça m'a vraiment rebuté. Et puis les frites, elles sont molles, elles sont pires que les frites Mikeen. Quoi de plus simple de faire des frites? Alors nous, les frites, avec Valérie, on les fait au four. J'ai eu une altercation avec Pierre-Guillaume Mercanal qui me dit « Non, c'est pas des frites, les frites, c'est frit !» J'ai dit « Oui, mais
oui.
Voilà, oui, c'est vrai. Mais moi, si tu mets la frite, c'est la forme. » Tu peux très bien les mettre au four avec de l'huile d'olive, tu vois, et tu passes à 180 à 30 minutes, et puis tu as tes, des frites, voilà, des pommes au four. Voilà, on
peut appeler ça des pommes au four.
D'accord. Ça n'a rien à voir, quoi. Les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas ça passent vraiment à côté de quelque chose d'essentiel. Savoir cuisiner, savoir transformer des aliments bruts, qui sont en plus pas chers. Et pouvoir, je dirais, se nourrir et puis en bénéficier au niveau de sa santé, au niveau de son moral, au niveau de son sommeil, l'implication de la nourriture dans notre quotidien est très, très, très importante. Vraiment, on n'a pas idée.
Dans ton livre American Food, aux éditions que je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs, édition Winterfield, c'est un livre qui est très pédagogique, qui se lit bien, qui est très percutant et que j'ai lu d'ailleurs. Il y a à un moment donné, tu parles d'ailleurs dans les McDo, à mon avis, un des pires forfaits qui est commis McDonald's, c'est le fameux, excusez-moi à nouveau pour le mot anglais, mais c'est le mot qu'ils emploient, le fameux Happy Meal. Happy Meal, c'est vraiment de la malbouffe pour des gamins, qui a, avec un jouet à l'intérieur, et où tu dis de façon, j'ai lu sidéré, que ça a effet de McDo, eh bien, le premier vendeur de jouets sur le marché.
Devant ma tête, devant Mattel et Lego, c'est devenu le premier vendeur de jouets. C'est extraordinaire, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, ils ont appliqué avec le Happy Meal, qui est, comme je dis, un an sorti d'un brainstorming. Là, bon, désolé, là aussi, c'est un anglicisme. Donc, d'une réflexion vraiment marketing, d'ailleurs, qui est lui aussi un mot anglais, hein, marketing.
Mercatique. Voilà.
Écoute, fais-moi une formation parce que je veux pas être, si tu veux, mettre de l'argent, je vais remplir le cochon là parce que je vais me ruiner là. Excusez-moi.
Donc, celui qui est derrière ton épaule gauche fait des bons. Tu ne vois pas, mais il fait des bons.
Il y a cette phrase dans le livre concernant le Happy Meal. Donc, si tu veux coloniser un pays, commence par les enfants.
Bien sûr.
C'est effroyable. Hein.
Bien sûr.
C'est effroyable. Et donc, ça a été, tu sais, McDonald's, en fait, c'est le multiculturalisme avant l'heure. Venez comme vous voulez, bien c'est avant ça. Benetton, etc.
Non, mais c'est ça, mais bien sûr. Venez comme vous êtes, venez comme vous êtes.
Et on va donner à vos enfants des frites pourries, du hamburger, c'est quoi? On voit le hamburger, c'est la nourriture pour bébé. Pourquoi? Parce que l'intérêt, lorsque vous mangez un aliment, c'est de mastiquer pour générer de la salive. Souvenez-vous, le chewing-gum, etc., tout se regroupe. Donc, lorsque vous mâchez, en général, vous prenez des légumes ou même une viande de qualité, parce que la viande de qualité, elle n'est pas molle, elle n'est pas juste tendre. Il faut mâcher en général 20 à 25 fois avant d'avaler. Quand vous mangez un hamburger, vous mâchez en général 5-6 fois. Donc, vous avalez plus vite. Et on prend cette habitude-là. Et on va pas détailler. Il est petit, le livre, mais il est costaud quand même. Hein, tu vois?
Oui, tout à fait.
Il y a le pain avec le pain de mie.
Tu vois? Alors ça, tu en parles très bien du pain de mie, cet horrible pain de mie qui est bourré en plus de saloperies, qui est raffiné, qui n'a rien à voir avec d'autres pains. Heureusement, on résiste. Ça, c'est un élément de résistance.
Exactement. C'est pour ça que je voudrais en parler. Parce que rendre hommage aussi aux boulangers, pâtissiers également, qui sont excellents, même si on utilise énormément le sucre, bien entendu. Mais la pâtisserie, tout comme la viennoiserie, doivent être exceptionnelles. Il ne faut pas manger un pain au chocolat tous les jours. Il faut aller mollo. Mangez-en un le dimanche et vous verrez que vous l'apprécierez. Et je parle en connaissance de cause. Lorsque je suis parti au Québec, je faisais quasiment 2 heures de route le dimanche pour aller à Montréal et ramener un petit peu des viennoiseries à ma chère et tendre. Et on se régalait. On se régalait parce qu'on en mangeait peu. Et ce que vous mangez peu, vous l'appréciez. Quand c'est du quotidien, après, on ne l'apprécie plus. Donc, bien pour sûr. En revenir au boulanger, l'intérêt du pain aujourd'hui, c'est le levain. Le levain permet de digérer le gluten. En général, les boulangers qui travaillent du pain au levain sont des boulangers bio, donc qui utilisent de la farine qui est non OGM, qui est de la farine du blé ancien, etc. Voilà. Quand vous sentez un pain doit sentir. Il doit sentir un petit peu cette odeur caractéristique du levain. Je suis venu à Paris, je crois que c'était hier, donc pour GPTV, et dans le train le matin, avant de partir, je me fais des petites tranches de pain complet que j'achète une fois par semaine chez mon boulanger. Parce qu'après, je le mets, tu sais, dans un torchon, et il reste, tendre, entre guillemets, et puis je passe toujours au grille-pain. Ah, j'allais dire le toaster. Non, au grille-pain. Et donc, je mange le sandwich. Écoute, j'ai embaumé toute la rame. Ça sentait la boulangerie. Tu vois cette odeur, tu vois l'odeur du levain? J'arrive tout pas à la décrire, voilà. Et donc ça, c'est le pain au levain, c'est juste, c'est magnifique. Peu importe qu'il soit complet ou pas complet. Bon, c'est vrai que la baguette, c'est du pain blanc, mais voilà, s'il y a du levain, il n'y a pas de souci. Le pain de mie, c'est de la levure chimique. Ouais. Tout comme le pain qu'on va acheter au supermarché. Il y a quand même 7 personnes sur 10 qui vont acheter au supermarché puisqu'elles font les courses là-bas. Le supermarché, ils ont fait fort, hein, parce que vous avez des boulangers qui sont des marques de supermarchés, des grandes enseignes, et qui vont cuire le pain, mais juste le cuire. Donc ça va sentir. C'est le pain chaud, c'est magnifique. Tu as envie de le manger, on dirait une brioche, en fait, le pain, la baguette donc, qu'on achète à Carrefour, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est de la levure chimique, de la mauvaise farine. Ça vous détruit les intestins, ça vous fait de l'intestin poreux au bout de 30-40 ans de quotidien de ce pain qui n'est pas du pain. Et il y a ce fameux pain de mie qu'on a inventé pour faire des sandwichs et des clubs sandwichs. Hein. C'est ça, en fait, le pain de mie. Hein.
Exactement.
Et même Aris, tu te rappelles du pain sans croûte. Tout à fait. Non, mais c'est pas de la croûte. C'est juste doré. Ah, non, mais le gamin, il veut que ce soit blanc, blanc. Mais tu te rends compte les habitudes que tu donnes à ton gamin. Mais en fait, les gamins sont tous junkies aujourd'hui. Du sucre, on en a parlé déjà longuement ensemble. Donc, le pain fait partie aussi. Le pain de mie, en fait, c'est le pain américain. Carré, mou, sans aucun intérêt nutritionnel. Et nous, tu vois qu'on est quand même des résistants. C'est quand même un point positif. Nicolas. Parfait. Bon, ah, ok. On est d'accord là-dessus.
Tout à fait. Allez, on continue les questions parce qu'il y en a beaucoup, Gilles. On va essayer de répondre de façon condensée.
Rapide, d'accord.
Un auditeur, ça c'est la question classique sur l'abattage halal. Où en est-on de la critique? L'objectif étant son interdiction de l'abattage halal, l'imposer presque partout, y compris dans les écoles, et sans qu'on le sache, sauf à se promener avec la liste des abattoirs qui tuent aussi les porcs, et monstrueux, combien de morts via Escherichia coli, bien courtoisement.
Oui, donc ça c'est un dossier que j'ai longuement exploité dans le tout premier livre, HIT, hein, sorti en 2014.
Oui, c'est ça.
Donc l'abattage halal, en fait, c'est quasiment aujourd'hui tous les abattoirs qui vont abattre halal. Et pourquoi? Oui. Parce que ce soit les musulmans, les juifs, ne mangent pas toutes les parties de l'animal. Donc, comme dans l'industrie de la viande, rien ne se perd. Il vaut mieux que ce soit abattu halal. Surtout que, bon, je ne connais pas la législation à ce jour, mais je ne pense pas que ça soit noté sur l'étiquette, hein, que c'était abattu de façon halal. Je ne pense pas. Hein. Ça n'était pas à l'époque, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Mais si on le marque, je dirais 80% de la viande, c'est de la viande halal. Ça va être compliqué. Alors, quand je dis 80%, c'est un chiffre totalement au hasard. Hein. Mais je sais que même en ayant interviewé des gens qui travaillaient dans les abattoirs, notamment les tueurs, c'est un poste bien particulier, parce que pour abattre, si tu veux, 600 cochons dans la journée, 300 jours par an... J'irais bonjour le karma, tu vois. C'est un profit très, très, très particulier, ces gens-là. Donc, c'est un endroit qui est cloisonné déjà dans l'abattoir, parce que ceux qui travaillent sur la chaîne ne voient pas les animaux se faire abattre. Et tous ceux qui m'ont remonté les informations, ils m'ont dit, écoute Gilles, déjà l'abattage traditionnel, bon, c'est pas terrible, mais l'abattage halal, c'est une véritable boucherie. Mais en plus, il n'y a rien d'halal. Lorsque vous lisez les écrits, notamment du Coran, comment ils abattent les animaux, on se dirait, il faut qu'ils soient tournés vers la Mecque, il ne faut pas qu'ils voient le couteau, etc. Mais ce n'est pas du tout, en fait, c'est pas de l'abattage halal, en fait. Tu vois, je ne comprends pas. Soit tu respectes vraiment les écrits. Voilà, mais là, c'est du halal industriel. Le halal ne peut pas être industriel, je suis désolé.
Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, cette auditrice, ça c'est un sujet que tu connais encore mieux, peut-être que le halal, c'est celui du cru. Bonjour, et si on passait de la cuisine à la cruisine ? Oui, je me doute, vous allez penser une écervelée New Age, reliquat hippie, mais les résultats existent dans un mieux-être. Seulement, le lobby alimentaire est tentaculaire. Comme indiqué, le Texas est un état à viande. Alors que fait Bill Gates qui veut imposer sa viande synthétique ? Merci de l'émission. Bon, ben là, c'est le cru.
Oui, alors, désolé, madame ou mademoiselle, vous mélangez un petit peu tout. Moi, je connais très bien la cuisine crue. Je reprends un de mes préceptes, là encore, de mon grand-père, qui me disait « mange salade, jamais malade ». Je ne suis pas du tout un adepte du 100% cru. Voilà, contrairement peut-être à Thierry Casasnovas.
Tu n'as pas compris le...
Oui, mais j'ai compris, bien sûr, qu'elle disait du bien.
Elle y est très favorable.
Mais moi, non.
Ah, et toi, non, d'accord,
non,
ok.
Moi, non. Je dirais contrairement à, tu vois, à Thierry Casasnovas, à Irène Grosjean, par exemple. Voilà. Vous n'avez pas fait manger du cru à un bébé, par exemple, tu vois. Comme les végans. Je dirais, quand tu es végan, jusqu'à ce que tu sois parent. Quand tu es parent, tu n'es plus végan, en fait. Donc, il faut raison garder. Il faut manger du cru, bien entendu. Les fibres sont excellentes. Les nutriments sont très, très bons. Oui. Et là aussi, l'argument du cru, c'est que la cuisson dégrade la qualité nutritionnelle des brocolis. Bon, je suis désolé, mais un brocoli que vous mangez cru ne peut pas être assimilé pour toute la population. Hein, c'est pas possible. Donc, par contre, un brocoli que vous allez faire tremper juste 2-3 minutes dans de l'eau bouillante ou que vous allez mettre à la vapeur 7-8 minutes, il va peut-être avoir un peu moins de nutriments. Mais la biodisponibilité, on en parle un petit peu, la biodisponibilité du cru, parce que bon, les crudivores, vous me faites rigoler. Il faut avoir un intestin qui est capable, justement, de détruire les fibres. C'est beaucoup, beaucoup trop riche en cru. Le cru est beaucoup, beaucoup trop riche en fibres. Alors, il est vrai que ce soit le jeûne, que ce soit des régimes, c'est pas des modes alimentaires, des régimes crus qui vont pallier certaines pathologies. Oui, oui, j'ai des multiples témoignages. D'ailleurs, ça m'a été reproché par Michel Simès quand je lui ai dit que j'avais des témoignages de personnes qui avaient jeûné ou qui étaient basculées au cru, qui avaient guéri de cancer. Voilà. Bon, est-ce qu'on guérit véritablement d'un cancer ? En tout cas, la maladie ne s'était pas développée. Et moi, je peux reporter aussi sur le livre Croquettes. Valérie, aujourd'hui, sauve des animaux en arrêtant les croquettes, tout simplement, en les passant à de la viande crue. Donc là, c'est miraculeux. Miraculeux. Après, qu'il y ait un lobby de la viande, bien entendu. Qu'il y ait un lobby industriel, bien entendu. Qu'il y ait un lobby du petit déjeuner, là aussi, bien entendu. Mais il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis pour le cru, mais pas du 100% cru. Voilà, je ne suis pas un crudivore, je ne le serai jamais. Sauf, là aussi, de rares exceptions. Quand cette dame ou cette demoiselle me dit, c'est prouvé, etc. Non, il n'y a rien qui est prouvé, il y a des témoignages. On sait ce que c'est, les études. Hein, donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, si vous avez une phrase à retenir de Gilles Lartigot, c'est « mange salade, jamais malade ».
Manger salade, jamais malade.
Avant le fromage.
Beaucoup de questions encore, Gilles. Je te demanderai chaque question une minute.
Ok, pas de souci. Excuse-moi.
Une auditrice, nous disons nous sommes ce que nous mangeons, mais sait-on encore vraiment comment est produite notre nourriture, ce que mangent les animaux d'élevage et ce que l'industrie réserve ensuite à nos animaux domestiques? Bon, tout ça c'est bien vrai, mais vas-y, une minute.
Une minute, nos animaux d'élevage sont bien mieux nourris que nos animaux domestiques. Voilà, nos animaux domestiques, les amis, les chats et les chiens, sont les poubelles de l'industrie agroalimentaire. Voilà. Quand vous donnez des croquettes à votre animal, vous lui donnez les restes de ce que les animaux d'élevage ne mangent pas et ce que les humains ne mangent pas. Ouais. Là, j'ai Virginie qui me fait des grimaces là, derrière la régie. Là. Je me dis, qu'est-ce que c'est, mon petit chat, Bianca, oh là là. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas être derrière chaque paysan. Voilà. Il faut pas que la nourriture aussi devienne une paranoïa, les amis. Voilà. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le bio, parce que le bio, aujourd'hui, il y a des prix qui sont complètement déconnants. Hein. Moi, je n'achète pas tout bio, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Hein. Donc, manger des légumes, Voilà, plutôt que ne pas en manger, ne manger que du bio. Si vous n'avez pas d'argent, voilà, mangez des légumes qui proviennent peut-être d'agriculteurs, en tout cas locaux, mangez de saison et ne vous prenez pas trop la tête avec l'alimentation. Vous allez vous créer plus de problèmes que de bénéfices.
Un auditeur, une auditrice, pardon, toujours passionnant, chers amis, vous savez que la nouvelle religion ne permet pas de manger de la viande, cela a été voté en mars 94 aux USA et cela avance lentement mais sûrement. Qui finance l'écologie? Qui finance toutes ces associations et organisations non gouvernementales qui chassent les peuples de leurs terres, de leurs potagers et de leurs fermes pour les donner à des fonds de pension toujours américains destinés à nous rendre encore plus esclaves du mode de vie américain? Point, détruire la France est essentiel. La France qui devrait être la 51e étoile du drapeau américain, envahie par les Américains, non pas venus pour sauver la France, mais pour se l'approprier. Il faut vraiment continuer à expliquer, comme vous le faites, ce qu'est la France, ce qui est la France. La France, c'est nous.
Bon, je n'ai rien à rajouter. D'ailleurs, ce n'est pas une question. C'est un développement qui est excellent. Donc les Américains, voilà, ne sont pas venus reconstruire l'Europe. En fait, ils sont venus la reprogrammer. Voilà, ils sont à l'initiative, vous le savez, de la création donc de l'Europe. D'ailleurs, Charles de Gaulle voulait déjà une Europe donc des nations, non pas une Europe fédérale comme qu'on est aujourd'hui. Hein. Mais malheureusement, la révolution de mai 68 avec le fameux rouquin fort en gueule et qui aime beaucoup les enfants, l'ont éjecté du pouvoir. Voilà.
Un auditeur, parce qu'il reste moins de 2 minutes. Bonjour à vous et Virginie. En 1980, McDonald's ne croyait pas au succès de ses menus en France et avait donné la licence à une société française. Devant le succès, ils ont utilisé tous les moyens juridiques pour la reprendre. Cordialement, tu le savais ça?
Oui, c'est Jacques Dayan en fait. C'est Jacques Dayan qui a amené le premier McDo, je crois, en 72. Ouais. Et ensuite, voilà, il s'est fait. Je dirais, mis à la porte par les Américains. C'est pour ça que McDo arrive officiellement en 79. Mais là aussi, c'est un Français, Raymond Dayan, qui va ouvrir la première franchise McDo. D'ailleurs, je connais une personne qui est propriétaire d'un McDonald's à Marseille. Il est multimillionnaire. C'était un peu comme le Bitcoin, tu vois, le McDo à l'époque.
Bien sûr, on termine par le 4-1 de notre cher Michel Dumas, qui est là, qui n'était pas là la semaine dernière, samedi dernier, mais qui est là ce samedi. Michel Dumas, j'entends Jean-Pierre Coff en colère criant « Tout ça, c'est de la merde » en argument brillant. Condamner la malbouffe, mâcher Chateaubriand, génial l'artigot, gerbe mes poissons et triant. Voilà, nous avons même, tu vois, le 4-1 dans ce livre journal de géopolitique profonde. Je rappelle ton livre, Gilles, American Food, aux éditions Winterfield. Cette émission s'achève. Tu as 30 secondes de conclusion.
Écoutez, bon appétit à tous. Voilà. Prenez soin de vous, mangez correctement, faites-vous plaisir. Demain, c'est dimanche. Le dimanche, c'est toujours repas d'exception. Voilà, donc oui. Faites-vous plaisir, petite viennoiserie, etc. Et si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est que abandonnez les petits déjeuners sucrés. Voilà, soit faites le jeûne intermittent, mais revenez au petit déjeuner salé, avec surtout les œufs à la coque. Et si vous choisissez des œufs, par exemple, bleu blanc cœur, qui sont enrichis en oméga-3. Ou alors, Merci. Si vous habitez près de chez moi, je produis un petit peu d'œufs. Pas beaucoup, hein, parce que j'en mange beaucoup. Et je vous les offrirai gracieusement. Voilà.
Merci beaucoup, Gilles. Eh bien, merci, chers auditeurs. Je remercie encore Patrice au standard et Virginie à la technique. Bonne journée à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en ce 30 mai 2026. Je vous dis, pour ma part, sur Radio Courtoisie, à mercredi prochain, libre journal de la Résistance française. Bonne journée à tous. Au revoir.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde dirigée par Nicolas Stocker, diffusée en direct sur Radio Courtoisie samedi 30 mai 2026 de 9h à 10h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.